d'Italie. En français.
Voglia d'Italia.
Pour voir l'Italie autrement. D'ici.
Du 20 au 25 mai dernier a eu lieu à Paris la 5e édition de la manifestation Traduire Transmettre au Théâtre de la Talente, dit place Charles Lullin, dans le 18e à Paris. Une semaine de lecture entièrement consacrée au théâtre italien. À cette occasion, des textes de Marco Baliani et de Saverio Larruina ont été présentés en lecture-spectacle dimanche 25 mai. L'un et l'autre sont par ailleurs traduits dans l'anthologie dirigée par Paola Ranzini, Théâtre italien contemporain des auteurs pour le nouveau millénaire qui vient de paraître aux éditions de l'Amandier.
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel sur 6.3 FM.
Nous leur consacrons aujourd'hui deux longs entretiens. Avec Marco Baliani, l'un des fondateurs du théâtre récit ou théâtre de narration, nous évoquerons un parcours commencé dans la gauche extra-parlementaire des années 70 qui s'est poursuivi jusqu'à ce jour dans une œuvre où l'action socioculturelle et la recherche théâtrale ont tracé une voie commune, profondément originale. Avec Saverio Larruina, nous verrons comment le récit permet d'incarner le refoulé d'un pays, la permanence du crime d'honneur, déshonoré en 2007, la difficile affirmation de l'identité féminine dans le Sud, arrange-toi en 2010, ou l'oubli d'une communauté issue de la Seconde Guerre mondiale, celle des familles de prisonniers italiens en Albanie, italbanais, en 2012. Les entretiens sont réalisés par les traducteurs, par ailleurs coordinateurs du comité italien de la maison Antoine Vitez, Centre international de traduction théâtrale à Paris, Federica Martucci, bonjour.
Bonjour.
Et moi-même, Olivier Favier. À la technique, Bertrand Chometon, que nous remercions. Donc pour cette première partie de notre émission consacrée au théâtre récit, nous sommes dans les bureaux du Théâtre de la Talente avec Marco Baliani,
bonjour,
Male Maglietta,
bonjour,
et Federica Martucci,
bonjour,
qui fera la traduction de Marco Baliani. Alors Marco,
Première question, Marco, tu es l'inventeur du théâtre de narration, notamment avec un texte qui s'appelle Colas, qui est inspiré d'une nouvelle de Von Kleist. Tu as été puisé dans ce texte pour parler de quelque chose qui faisait écho à une période plus actuelle, notamment ce texte faisait penser aux événements des années 70 en Italie. J'aimerais que tu nous parles de cette envie que tu as eue de partir de ce texte pour créer ce texte du théâtre récit, nous parler aussi de l'expérience de ce spectacle qui a été joué plus de 1000 fois depuis sa création. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler?
Quand j'ai commencé à mettre en scène, à penser à raccontare Colas non era la prima volta che raccontavo. Io ho iniziato.
Quando j'ai commencé à mettre en scène Colas, ce n'était pas la première fois que je parlais de ce texte.
Erano già sette anni che lavoravo sul racconto.
Ça faisait déjà 6 ou 7 ans que je travaillais sur ce récit.
E raccontavo storie per bambini e ragazzi.
Je racontais des histoires pour les enfants et les adolescents.
Quindi ho imparato a raccontare raccontando ai ragazzi.
Donc j'ai appris à raconter en racontant aux jeunes.
E questo è rimasta una cosa molto importante per me perché raccontando bambini e ragazzi ancora oggi quando devo sperimentare un racconto prima di tutto lo racconto a loro.
C'est quelque chose qui est très important pour moi qui est resté parce qu'aujourd'hui quand je dois expérimenter une écriture, quand je dois raconter quelque chose, je commence d'abord par le raconter aux enfants, aux jeunes, au public.
Perché un raccontatore capisce subito il problema del tempo, del ritmo, dell'attenzione, della durata.
Parce que celui qui raconte comprend tout de suite le problème du temps, du rythme, de la durée.
Quand j'ai commencé à penser de faire un spectacle un peu plus pour grands, disons, pour adultes.
Quand j'ai pensé à faire un spectacle plus pour les grands, pour le public plus adulte.
Colas, il primo anno l'ho raccontato alle scuole. Io dico 1989, in realtà il lavoro è partito un anno prima, nell'88.
Moi, je dis que le travail il a commencé plutôt en 1988, même si le spectacle a été créé en 89. Et la première chose, c'est que j'ai commencé à raconter l'histoire dans les écoles.
Les scuole medie inferiori e superiori.
Donc dans les écoles, dans les collèges et aussi au lycée.
Et mentre raccontavo, come sempre, capivo tante cose. Per esempio, diciamo che la prima volta, le prime volte durava quasi 2 ore lo spettacolo.
Et au fur et à mesure que je le racontais, évidemment, je comprenais toujours plus de choses. Les premières fois, le spectacle durait 2 heures. Enfin, le récit durait 2 heures.
Dura 1 ora e 20.
Et maintenant, il dure 1 heure 20.
Et quindi, io capivo via via che raccontavo, dalle reazioni degli spettatori, cosa funzionava di più, cos'era più efficace e cosa no, perché la qualità di una narrazione è stata tutta nell'efficacia.
Et au fur et à mesure que je le faisais devant les spectateurs, je remarquais ce qui fonctionnait ou pas, parce que ce qui est quand même le cœur d'un récit, c'est l'efficacité. Il faut qu'il ait une efficacité vis-à-vis du spectateur, celui qui écoute.
E ancora oggi io penso che il racconto è un continuo work in progress. Non si può pensare che il racconto è finito una volta per tutte e poi lo rifai uguale. È un continuo adattamento al pubblico che incontri.
Et moi, je continue à croire que le récit, c'est toujours un work in progress, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on le fait devant des spectateurs, il évolue et c'est pas quelque chose qui est figé. Au contraire, ça évolue au fur et à mesure des représentations.
Io voglio fare un esempio. I primi tre anni, io usavo per fare 3-4 anni, i primi fino al 91-92, che ho fatto tantissime rappresentazioni di Colas, quasi 100-120 all'anno. Io però recitavo con un paio di scarpe, due spadrillas, le scarpe di stoffa, quelle nere.
Je dois donner un exemple, c'est quand je faisais en 1991-92, j'ai fait quasiment plus de 100 représentations, c'est vraiment les moments où j'ai le plus joué Colas. Je jouais à l'époque avec au pied des espadrilles, je portais des espadrilles pour jouer le spectacle.
Poi una sera a Genova andai a vedere Mimmo Cuticchio, che è un grande narratore popolare e siciliano che lavora con i pupi siciliani e che però in quell'occasione faceva uno spettacolo sentito dalla spada di Celano.
Et donc un soir en revanche à Gênes, je suis allée voir un spectacle, c'était avec un grand conteur italien, sicilien, Mimmo Cuticchio, qui était dans la tradition des pupi siciliens, et en voyant ce spectacle...
Ed era uno spettacolo lui, senza pupi, raccontava le stesse storie dei cavalieri, Orlando, Rinaldo, i grandi cavalieri, tutto il ciclo carolingio, però lavorava battendo coi piedi, dandosi il ritmo col piede, con un linguaggio siciliano stretto, non capivo nulla di quello che diceva, però si capiva tutto dal punto di vista emotivo.
Donc ce soir-là, il n'avait pas de marionnette, il n'avait pas les poupées avec lui, mais c'était un récit qui parlait des grands chevaliers, de l'époque carolingienne, et il y avait il n'avait pas de marionnette, mais il faisait tout avec ses pieds, et il parlait en plus dans un sicilien, enfin un dialecte sicilien très, très particulier, auquel je ne comprenais rien et pourtant je comprenais tout au spectacle avec son corps, il disait beaucoup plus.
Et quella sera ho detto, ma allora perché non provo a usare i piedi anch'io? Ho comprato delle scarpe che sono quelle che ancora ho. E con queste scarpe Colas è cambiato completamente, è diventato uno spettacolo dove avevo una batteria praticamente. Le mie scarpe erano una batteria di accompagnamento sonoro.
E donc ce soir-là, j'ai compris, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi aussi je ne ferais pas la même chose pour Colas avec mes pieds? Et j'ai donc changé de chaussures, j'ai pris des chaussures, non pas en toile, mais beaucoup plus solides, qui sont celles qui m'accompagnent encore dans le spectacle. Et j'ai fait Colas, continue à faire Colas avec ces chaussures-là, qui sont un vrai instrument pour moi de jeu.
La storia, come ha detto Olivier, è una storia molto forte. Io l'ho scelta perché è una storia che parla del tema dell'ingiustizia, del rapporto del cittadino, del singolo cittadino con la giustizia, con lo Stato, col potere. Siccome io vengo dagli anni 70, dove il tema della giustizia era il tema centrale delle lotte politiche, ho pensato di fare uno spettacolo che parlasse di questo conflitto infinito ed eterno che è il tema della giustizia.
Oui, alors l'histoire de Colas, c'était un thème pour moi qui était très fort. Ça parle de la justice, de la relation du citoyen avec le pouvoir, de la justice privée. Donc il y avait vraiment un écho pour moi avec ce qui se passait dans les années 70 en Italie et qui est ce rapport entre le citoyen et le pouvoir, le thème de la justice pour le citoyen.
Sì, diciamo, come si può in nome di un grande ideale di giustizia diventare giustizieri. Per quello che succede a Colas nel racconto, che è un racconto ambientato nella Germania del fine 500, quindi durante le rivolte della riforma protestante, c'è Martin Lutero, in quel periodo lì, come si può un cittadino che non trova più conforto nelle leggi dello Stato, anzi le leggi le trova come fossero le leggi dei ricchi a cui lui non può accedere, diventa a sua volta un ribelle e quindi diventa un guerrigliero, uno che porta avanti una lotta estrema e anche mortale contro lo Stato.
Oui, en fait, l'histoire de Colas, c'est vraiment l'idée de comment l'idée de justice, la volonté de justice peut rendre un homme soi-même justicier. Et c'est vrai que Colas, bon, ça se passe au moment de l'époque luthérienne, mais c'est un citoyen, enfin un homme qui s'aperçoit qu'il ne peut pas compter sur l'État pour obtenir justice et qui va donc lui-même se rendre justice. Et c'est vrai que ça fait penser à cette lutte que doivent mener les citoyens qui ne retrouvent pas dans l'État le soutien de justice qu'il devrait trouver normalement.
On va revenir bien sûr sur les années 70, on va revenir aussi sur la justice avec Corps d'État, donc le spectacle qui concerne l'affaire Moreau, l'affaire Aldo Moreau, qui a été lu donc, au Théâtre de la Talente le 25 mai. Je voudrais revenir d'abord sur un sujet que tu as un petit peu abordé, c'est celui du public. Je me souviens que dans une interview d'il y a quelques années, tu expliquais qu'effectivement, les années 80, donc le spectacle Colas est né à la fin des années 80, était une période, une sorte d'âge d'or du théâtre expérimental italien, et que ce théâtre expérimental, d'une certaine manière, semblait avoir oublié un petit peu le public. C'était comme si finalement les gens produisaient un spectacle pour eux-mêmes ou pour les professionnels de théâtre, les critiques de théâtre et certains spectateurs un petit peu privilégiés, mais que le public plus large, finalement, était un peu mis de côté, et puis il comprend pas, c'était pas très important. De l'autre côté, il y avait un théâtre, je dirais, plus populaire, qui était un petit peu méprisé, justement, parce qu'il faisait pas partie véritablement d'un théâtre de recherche. Et il me semble que, précisément, dans l'idée de revenir à la narration, il y a l'idée de dépasser un petit peu cette antinomie, d'une manière un peu dialectique, et de faire, d'une part, un théâtre de recherche, puisque travailler sur la narration, c'est faire une recherche aussi sur les moyens du théâtre, et y compris dans la pureté de la parole, du récit, comment arriver véritablement, en revenant à quelque chose d'archaïque, à redonner, à chercher quels sont les moyens fondamentaux du théâtre, et puis en même temps, effectivement, s'intéresser réellement aux attentes du public.
Sì, gli anni 80 sono stati, 70, fine 70, 80 sono stati gli anni di grande sperimentazione sui linguaggi, quindi meno male che c'è stata questa sperimentazione.
Sì, in effetti, fin 70, début 80, c'était vraiment un très d'expérimentation, notamment d'expérimentation sur le langage, et heureusement qu'il y a eu ces années-là pour faire avancer les.
Però già alla fine degli anni 80 questa sperimentazione continuava a ripetere se stessa, ed era un tipo di sperimentazione molto legata all'estetica. Molto estetizzante, molto legato alle letture di Baudrillard, del postmoderno, no, la società dello spettacolo, il teatro immagine si chiamava. Io ho tentato, io ma non solo io, cioè molti in quel periodo hanno tentato un recupero della parola, perché questo era tutto un teatro in cui la parola non contava molto, contava l'immagine, contavano le proiezioni video, contava.
Effectivement, c'était un théâtre d'expérimentation. On était très inspiré aussi par les textes de Baudrillard à l'époque, mais c'était un théâtre aussi beaucoup d'images et qui laissait moins de place à la parole. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de réhabiliter aussi cette parole.
Sì, diciamo il lavoro non è tornare a una parola tradizionale come era la parola dell'Ottocento o del Novecento, è innanzitutto recuperarla per la forza del parlare, è un parlare orale, non è un parlare di scrittura testuale, non è un parlare di testo a partire da un testo scritto da un autore, è un parlare a partire dall'autoralità dell'attore, dal modo con cui lavori col gruppo degli attori. Il testo nasce come work in progress insieme agli attori, nasce in me, insieme a Maria Maglietta che mi fa da regia, drammaturgia, ma come nasce in me, io lo faccio nascere quando lavoro con gli attori. Non, cioè è un work in progress, non è un.
C'est une idée de réhabiliter, c'est carrément d'aller récupérer des mots. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours une démarche qui est de work in progress, parce que la parole, le travail que je fais sur les mots, c'est avec les acteurs, c'est avec Maria Maglietta qui met en scène mon travail. Et c'est vraiment un travail qui est toujours en évolution avec le corps des acteurs.
Et donc, lavorando sulla parola, non è che ho dimenticato né il lavoro sul corpo né in spettacoli che ho fatto anche recentemente con 20 attori, 30, 50 attori, lavorare anche sulle immagini, sul video, sulla tecnologia. Non è un chiudersi in un'idea di parola autosufficiente. Colas è un esempio estremo di un modo di lavorare senza nulla. Si può lavorare con la parola, far vedere, si può lavorare stando seduti su una sedia, senza scene, senza immagini. immagini, senza luci, senza niente. Però è un estremismo, non è che quella è la soluzione del teatro.
Alors voilà, évidemment c'est un extrême, c'est-à-dire que c'est une façon de travailler juste avec les mots, sans lumière, sans artifice, sans décor. Donc c'est vraiment un extrême. Après, et notamment dans mes derniers spectacles, voilà, je n'ai pas oublié la parole, mais j'ai aussi travaillé sur l'image. J'ai travaillé avec une vingtaine de comédiens, notamment sur les derniers spectacles, avec de la vidéo. Donc il y a aussi je rajoute aussi autre chose. Il n'y a pas que la parole dans mes derniers spectacles, notamment.
Quindi adesso noi abbiamo una grande possibilità, perché tutte le sperimentazioni fatte dagli anni 70-80, tutti i linguaggi dispiegati, adesso li dobbiamo usare per tornare a fare un teatro che parli al pubblico però. Voilà, qui riesca à capturer le populaire anche dello spettacle.
Donc l'idée c'est que toutes ces expérimentations, notamment qui étaient faites dans les années 70-80, l'idée c'est de pouvoir mettre tout ça ensemble pour attirer le public, attirer l'attention du public et d'avoir un théâtre qui soit populaire et qui s'adresse au public en utilisant tous ces moyens-là.
Je voudrais maintenant qu'on parle d'un autre spectacle, donc qui est Cordetta, créé en 1998 pour le 20e anniversaire, si on peut l'appeler ainsi, de la mort d'Aldo Moro, assassiné par les Brigades Rouges donc le 9 mai 1978. Spectacle qui a été créé pour la télévision, sur les marches du Forum impérial où a été assassiné Jules César. Et spectacle qui a connu un processus de création particulier, puisqu'après t'être plongé dans les livres d'histoire, tu as choisi, sur la suggestion de Maria Maliette, à ta compagne, qui est avec nous aujourd'hui, de t'en remettre à tes souvenirs personnels. Voilà. Alors je voudrais m'adresser maintenant à Maria Maliette pour qu'elle nous raconte un petit peu comment s'est créé ce spectacle.
Sì, all'inizio è stato proprio questo. È stato un ritornare a rianalizzare tutti i materiali che erano stati prodotti, raccolti, quindi dai giornali che erano usciti all'epoca, ai libri scritti in seguito, e il materiale era tantissimo e controverso, poi perché ancora oggi, a distanza di tanti anni, non c'è ancora chiarezza su quei fatti, e soprattutto l'impressione che tutta questa documentazione, tutta questa ricchezza documentaristica, storica, non era esattamente quello che serviva, perché strideva quasi con un'operazione teatrale.
Oui, alors la première démarche, ça a été bien sûr de collecter les documents, tout le fonds documentaire qui était très disparate, très nombreux, mais aussi sur lequel il y avait beaucoup de zones d'ombre, parce que encore aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette affaire. Voilà, la première chose, ça a été d'y voir un peu plus clair. Pour pouvoir travailler et avancer. Et puis aussi, la question, c'était effectivement comment, après, s'écarter de tout ce fond historique pour pouvoir arriver à en faire un spectacle et toucher le public au théâtre.
Et quindi, mi ricordo che appunto un giorno, mentre lavoravamo, io ho detto, ma siccome noi avevamo vissuto direttamente quella vicenda, ho detto, ma noi, quel giorno, dove eravamo? Che cosa? Quando la notizia è stata diffusa dalla radio, dove eravamo? Cosa facevamo?
Et donc moi, la première chose, enfin, je me suis dit, en commençant à travailler, je me suis posé quand même une question, c'est que nous, on a vécu ces épisodes, on y a été personnellement aussi impliqués d'une manière ou d'une autre, et je me suis dit, mais quand ces choses-là sont arrivées, ces faits-là sont arrivés, nous, où on était? Qu'est-ce qu'on faisait ce jour-là? Où est-ce qu'on était ce jour-là?
E quello è stato come trovare il bandolo della matassa. Quindi da quel momento Marco si è ricordato che eravamo col furgone della compagnia teatrale passati a fare la spesa a questo mercato romano, che è il mercato del testaccio, e mentre stavamo scendendo, perché arrivati al mercato, la radio ha dato questa notizia, che era una notizia sconvolgente. E quindi scendendo la notizia veniva commentata dai vari venditori del mercato, che in qualche modo avevano saputo. Quindi veramente passava attraverso Voce di Popolo questa, questa prima notizia data così da, a pochi minuti da quando era successo la, l'assalto.
Et là, c'était vraiment une clé parce qu'effectivement, Marco s'est souvenu que ce jour-là, on était dans le fourgon de notre compagnie et on allait à marcher à Rome, à marché romain, on allait à faire des courses et on a entendu la nouvelle à la radio avant d'arriver au marché du Testaccio et donc on a partagé, pour ainsi dire, cette nouvelle avec les gens, notamment les vendeurs qui étaient sur le marché, qui eux aussi avaient eu vent de la nouvelle. Et donc, pour nous, elle est arrivée par la voix du peuple, puisque les gens commentaient cette nouvelle importante et dramatique.
E quindi procedendo su questa strada ci si è chiarito anche quello che per noi era importante raccontare e comunicare. Cioè non era tanto fare un'ennesima cronaca di un fatto drammatico, storico, accaduto, quanto comprendere che quell'accadimento aveva segnato un punto di rottura di tutto quello che era stato il movimento, il fermento politico, culturale, vitale degli anni fino a quel momento e che questo evento era una rottura netta, creava uno spartiacque e che quindi il cambiamento che era in atto era qualcosa di più grosso.
Donc là, c'était vraiment le fait de partir sur ce chemin-là, ça clarifier les choses parce qu'on a bien compris qu'on ne devait pas faire un spectacle ou créer quelque chose sur une version en plus de cette nouvelle, de ce fait journalistique, mais c'était pour nous justement, on a compris que c'était un point de rupture, une manière d'envisager aussi tout ce qui s'était passé, toutes les luttes avec un nouveau regard. Il y a vraiment eu un point de rupture à ce moment-là, à partir de cette nouvelle-là.
Quindi è venuto fuori questo racconto che ha avuto un impatto molto forte, appunto è stato trasmesso, la sua prima trasmissione è stata televisiva, come dicevamo, poi si è lavorato ancora in termini di linguaggio per riportarlo in teatro, perché chiaramente i tempi, il ritmo di una narrazione in teatro è completamente diversa, c'erano anche dei frammenti di immagine che venivano proiettati, immagini di repertorio e nel lavoro teatrale si è lavorato tantissimo su questo perché i tempi televisivi e l'attenzione sono d'altro tipo.
Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que le spectacle d'abord il est né, il a été diffusé à la télévision, donc dans le cadre d'un cadre télévisuel, et quand on a dû ensuite passer au théâtre, il avait évidemment fallu l'adapter parce que le temps de la télévision n'est pas celui du théâtre, et il y avait beaucoup de projections d'images, il a fallu là encore aussi traiter pour le théâtre ces aspects, ces images, ces films.
Ma sia il passaggio televisivo, perché fu trasmesso in diretta dai Fori Imperiali di Roma, che è uno spazio che quasi mai viene concesso per degli eventi di questo tipo. E quindi ebbe un audience altissimo. E sia il pubblico televisivo, sia quando poi in seguito, perché ha avuto una vita teatrale di quasi 10 anni, e effettivamente questa narrazione riusciva a toccare dei punti vivi di una grande fascia di pubblico, perché era un nodo non risolto. E quindi non solo per quelli della nostra generazione, ma soprattutto per giovani di 17, 18, 19 anni, che si trovavano di fronte a degli eventi che forse non erano mai stati raccontati, proprio perché c'era stata una grande rimozione anche su quegli anni. Gli anni 70 non sono ancora stati raccontati e forse sono anche troppo vicini perché se ne possa parlare tranquillamente, anche parlare quindi sia delle contraddizioni che di tutte le cose positive che hanno Qui hanno portato nella società.
En fait, la première représentation, c'était une représentation à la télévision. C'était à Rome, au Forum, ce qui d'ailleurs est exceptionnel parce que c'est pas un endroit, c'est un endroit historique qui n'est pas facilement concédé comme ça pour faire des spectacles. Et puis ensuite, il a fallu faire donc un travail pour que ça passe au théâtre, toucher un très très large public, notamment parce qu'il y avait effectivement des zones de secret, des zones d'ombre, et ça touchait non seulement les protagonistes des années 70, ceux qui avaient participé aux événements, qui les avaient vécus parce qu'ils étaient de cette génération, mais aussi les nouvelles générations qui n'en avaient peut-être jamais entendu parler ou qui n'avaient entendu parler de très loin parce que finalement on en parle peu parce que peut-être encore la distance, enfin le temps, il n'y a pas suffisamment de temps qui s'est écoulé entre ces événements-là et aujourd'hui, sans doute encore, c'est encore trop récent dans la mémoire.
Je voudrais parler maintenant avec toi, Marco, d'un autre spectacle, Trace, que j'ai eu la chance de voir au Théâtre India il y a quelques années. Un spectacle, lui aussi, extrêmement radical, puisque tu construis l'ensemble de ton récit sur des fragments qui changent chaque soir et avec lequel tu joues en quelque sorte avec le spectateur. Tu choisis de l'emmener sur différents terrains d'une manière un petit peu en lui faisant entendre aussi à ce spectateur qu'effectivement tu pourrais lui raconter d'autres histoires. C'est un chemin relativement sinueux et c'est un texte très particulier, une expérience très particulière qui a des durées variables aussi d'un soir sur l'autre. Et j'aimerais donc que tu nous expliques un peu comment est né ce spectacle.
Guarda, questo spettacolo è nato dalla lettura del testo di Ernst Bloch, poi un testo di filosofia, si chiama Spuren, tracce. E lui nel testo dice e fa capire, perché io poi non ho mai fatto filosofia, perché non sono un filosofo, però è uno dei pochi testi di filosofia che sono riuscito a capire, perché di solito i testi di filosofia quando cominciano a parlare dell'essere, l'essenza, l'ente, l'entità, Heidegger, Wittgenstein, cioè non capisco più nulla, mi lascio, abbandono, non ce la faccio. Invece lui era molto, molto chiaro e diceva, guardate, si può fare filosofia narrando anche piccole storie, a partire da piccole storie. Questo è stato illuminante per me.
Ce spectacle est parti d'une lecture d'un texte de Ernst Bloch. Alors moi, je ne suis pas familier de la philosophie. Généralement, j'ai du mal à lire des textes de philosophes, lettres, l'essence. Enfin, ce n'est pas des choses qui me sont franchement accessibles. En revanche, ce texte-là de Ernst Bloch, qui trace, quand je l'ai lu, vraiment, pour moi, ça a été limpide et j'ai eu comme une illumination parce qu'il dit on peut faire aussi de la philosophie en racontant des petites histoires. Voilà.
Sì, e la cosa, la scoperta era questa, che qualsiasi storia, per il solo fatto che viene raccontata e tramandata, vuol dire che dentro ci sono altri misteri che non si vedono nella struttura della storia, che devi esplorare, e che spesso gli spettatori e gli ascoltatori fanno esattamente questo. Tu racconti una fiaba e sembra, è una fiaba, pensi che è una cosa molto leggera, fatta per bambini, con l'illusione che sia per bambini, ma non lo è. Poi scopri, ripensandoci, che dentro ci sono una quantità di indicazioni di vita, di consigli, di saggezza, di misteri, di cose inesplorate. Allora l'idea era quella di prendere appunto piccole storie e cominciare a fare delle esplorazioni. Siccome lui nel testo lavorava, ogni capitolo era dedicato a una parola, io ho scelto di tutte queste parole una parola che mi è molto cara, che è stupore e incantamento.
Oui, en fait, dans ce texte que je lisais, il explique que quand on raconte une histoire, en fait, à l'intérieur de cette histoire, c'est aussi le moyen de transmettre, de relayer d'autres histoires. Par exemple, quand on raconte une fable, des fables qui ont l'air toutes simples à des enfants, c'est vrai qu'à l'intérieur, ce sont des indications de vie, ce sont des expériences qui sont relayées. Voilà, on a l'impression de lire juste une histoire très simple, mais à l'intérieur, c'est extrêmement dense et extrêmement riche. Et c'est vrai que du coup, je suis partie de cette idée. Et dans son texte, il y a plusieurs chapitres, chacun étant dédié à un mot. Et moi, j'ai choisi le mot stupeur et enchantement.
Sì. E quindi è nato Tracce, che, come dici tu, è un testo molto, può durare un'ora e un quarto, anche tre ore e un quarto, dipende dal pubblico, da dove sto, con chi sto. E spesso, io all'inizio, io il testo che ho di Tracce è una mappa disegnata, è proprio un disegno. C'ho una mela, poi ho un pozzo, poi ho una spiga di grano. Se faccio questo percorso, racconto certe storie, se vado in un altro percorso ne racconto altre. E dipende la sera quello che viene fuori.
Oui, c'est comme ça qu'est né mon spectacle et Trace. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui, selon les soirées, selon le public, peut durer une heure et quart ou plus. Parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment un texte, j'ai plutôt un canevas avec des dessins. J'ai une pomme, j'ai un épi, un puits. Voilà. Et en fonction du public, ben, je vais partir vers la droite ou vers la gauche, je vais partir dans une direction ou dans une autre. Donc, c'est jamais le même spectacle.
E la cosa bella, poi finisco, insomma, e la cosa bella dello spettacolo è che è uno spettacolo, anche questo, che è cresciuto nel tempo, perché spessissimo gli spettatori alla fine dello spettacolo vengono da me e dicono: ma lo sai che quella cosa lì mi ha fatto ricordare un libro, e mi dicono il titolo di un libro che io non avevo mai letto, lo vado a leggere e avevano ragione, c'è dentro un pezzo che allora aggiungo nello spettacolo successivo. Quindi gli spettatori contribuiscono ad aggiungere dei pezzi dello spettacolo, questo è stupendo.
Oui, une chose qui est merveilleuse, c'est que ce spectacle, ben, au fur et à mesure, il s'épaissit, il prend de la densité, parce que à la fin du spectacle, il n'est pas rare que les spectateurs viennent me voir en me disant: mais tu sais, ce que tu dis à ce moment-là, ça m'a fait penser à un autre texte ou à un autre auteur, et dont moi, auquel je n'ai pas pensé, que je connais parfois pas. Donc je vais voir ensuite, et effectivement, ils ont raison, ça a du sens, et moi, parfois, j'ajoute. Et donc, ce qui est super, c'est que les spectateurs contribuent au développement du spectacle de cette manière et que le spectacle évolue grâce à eux aussi.
Alors le temps manque évidemment pour faire un tour d'horizon complet, si tant est que ce soit possible, de ton parcours. On n'a pas parlé de ton œuvre de romancier, nous n'avons pas parlé de ce livre fabuleux, un des plus grands livres qui a été écrit sur le théâtre, à mon sens, ces 10 dernières années, peut-être même ces 20 dernières années, qui s'appelle « O cavalcato in groppa una sedia », j'ai chevauché sur une chaise. Livre qui donc résume 40 années finalement de parcours dans la narration à travers des fragments, des notes prises au cours de tes voyages, au cours de tes tournées. Ma dernière question portera tout simplement sur ton dernier spectacle dont j'ai appris l'existence aujourd'hui et qui s'appelle Identità, Identité.
Sono in scena con Maria Maglietta, siamo coautori del tema. In realtà c'è una fiaba, la fine del tema dell'identità. Cadiamo nella fiaba più classica, che io mi trasformo in un rospo, un grenouille, e Maria diventa una principessina di quartiere, cioè una che vorrebbe essere principessa, ma in realtà è una poveraccia sottoproletaria, disperata, e ci incrociamo, io aspetto il bacio per avere la nuova identità di principe, e lei spera che baciando me io divento principe e la sposo, e diventa principessa. Quindi chiudiamo con una fiaba.
Oui, alors en effet, ce texte, alors dont on est co-auteur, Maria et moi, en fait, derrière, quand même une fable, parce qu'à la fin, moi, je me transforme en crapaud, elle se transforme en princesse, enfin, en princesse, elle voudrait être une princesse, mais en fait, elle se transforme en une princesse, disons, de banlieue, et moi, j'attends le baiser qui me fera devenir prince, et c'est vrai que, voilà, là, donc là, on retombe quand même dans la fable, même si c'est pas le propos.
Alors, en réalité, chiudiamo con questa storia per alleggerire uno spettacolo che invece tutto il resto dello spettacolo è molto duro, molto forte, perché cerchiamo di rispondere a una domanda che ci riguarda tutti oggi, è il chi sei tu e chi è l'altro. Cioè, che cos'è l'identità oggi? Che questa parola molto pericolosa, molto difficile, perché è appunto, ed esploriamo, adesso non sto a raccontare tutto perché è troppo lungo, esploriamo con micro racconti, sia io che lei, singoli personaggi o singole situazioni in cui l'identità o viene negata, e quindi io ti annullo l'identità, come è accaduto con gli ebrei durante il nazismo, no? Ti annullo l'identità, te la opprimo, non ti considero una persona e quindi posso fare di te quello che voglio, quattro poliziotti che massacrano un tossico per strada, oppure l'identità viene esaltata, io ho una mia identità così forte che per averla faccio in modo che tu sei il mio nemico, è quello che succede in tutte le guerre etniche di questi tempi. Quindi sono temi molto forti che però li giochiamo non filosoficamente, cioè con cose molto concrete, un personaggio lei, uno io, un personaggio lei, un personaggio lei. Sono forme di narrazione con una scrittura molto diversa ogni volta, cioè non è una narrazione sempre uguale, insomma, il ritmo è completamente diverso, le modalità Però insomma è un lavoro su, su questo tema molto...
Alors c'est vrai que c'est un travail en revanche vraiment sur une thématique très profonde, très importante aujourd'hui, qui est le thème de l'identité, qui est un mot quand même aujourd'hui qui fait peur parfois, parce que alors on à travers des micro-histoires, tantôt c'est moi qui incarne un personnage, tantôt c'est Maria, à travers des micro-histoires, voilà, on cherche à parler de ce concept de l'identité qui peut être soit une annulation de l'identité de l'autre, parce que voilà, on se questionne qui je suis, qui est l'autre, ça peut être de manière comme une annulation. Donc, par exemple, ce qui est arrivé au, bien évidemment aux Juifs pendant la guerre, ou ce qui arrive dans la rue quand un toxicomane se fait tabasser par des flics dans la rue. Mais aussi, ça peut être non pas une annulation, mais une exaltation de l'identité, comme on le retrouve dans les guerres modernes aujourd'hui. C'est-à-dire que j'exalte mon identité et du coup, mon identité est plus forte que celle du peuple que j'essaye d'écraser, de supprimer. Mais voilà, donc on a un récit qui est comme ça, constitué de micro-histoires. On passe d'un personnage à l'autre, tantôt moi, tantôt Maria, et pour quand même parler de cette thématique qui est extrêmement actuelle de l'identité.
Nous arrivons donc au terme de notre entretien avec Marco Baliani et sa compagne Maria Malietta. Pour faire le lien, avant d'entendre Saveo la Ruina, je voulais vous faire écouter une chanson qui parle de révolution. Elle est interprétée par Ascanio Celestini, un auteur plus jeune de théâtre de narration, qui est un peu l'auteur phare de la nouvelle génération du théâtre de narration, auteur dont beaucoup de textes ont été traduits en français, Radio Clandestine, La Fabrica, et aussi La Brebis Galeuse, La Pecoranella, qui a eu l'honneur de plusieurs mises en scène, tant en France qu'en Belgique, assez connu donc, et voilà. Et il me semblait intéressant de repartir sur ce mot de révolution.
Visto e considerato che non ne potevano più della loro mala sorte, incominciarono ad aggirarsi, come si aggirò quel famoso spettro per l'Europa. Tutti evidentemente erano dei disgraziati, ma ciascuno lo era in maniera differente, poiché la disgrazia colpisce i miseri, ma con incredibile fantasia nelle forme. Infatti c'era quello che aveva perso la casa, insieme a quello che più semplicemente aveva perso le chiavi di casa. E c'era quello che aveva perso la memoria e non si ricordava manco più che cos'è che si era perso. C'era quello che aveva perso la ragione, e insieme alla ragione aveva perso anche il torto. E infine c'era quello che aveva perso tempo, e non ci aveva più tanto tempo da perdere. E difatti fu lui che disse attenzione. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Mentre che si aggiravano, come si aggirò il famoso spettro per l'Europa, si trovarono a passare sotto le finestre di quelli che una volta dicevano avanti popolo. E dicevano avanti popolo perché mandavano sempre davanti il popolo e loro se ne stavano indietro, magari d'un passo, magari d'un metro, perché loro ad andare avanti gli veniva da ridere. E con le lacrime agli occhi era morto nel cuore, videro lo scompiglio nelle forze dell'ordine. Che mo non erano più né tanto forti né tanto meno ordinate. Infatti erano scappati via i generali, tenenti, sottotenenti, nullatenenti. Perfino i pompieri di Vigiù da qualche minuto non c'erano più. Erano velocemente scomparsi i gagliardi soldati che ringhiavano e mostravano i denti. Per la strada si vedeva solamente qualche brigadiere in pensione che mostrava la dentiera. Ma è risaputo che anche i militari stentati capiscono bene come va la situazione e si dicono sottovoce: tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Il capo dei capi delle polizie di tutti quanti gli eserciti riuniti stava guardando in televisione un programma sui gamberi in salsa rosa quando ci fu una spiacevole interruzione. Il giornalista, autorizzato dalla redazione, disse che il quiz del sabato sera, il tirassegno sul negro che passa la frontiera, il telegiornale di Paperino, il grande fratello con suo cugino, le Olimpiadi di Mazzafionda non sarebbero più andate in onda. Disse è saltata la programmazione, che tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Così il capo dei capi della polizia di tutti quanti, gli eserciti riuniti, per la prima volta durante la sua lunga carriera, si sentì di essere la persona sbagliata nel posto peggiore. Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro a un museo, adesso invece si vergognava che in una giornata così piena di sole sporcasse il muro con la sua ombra. Quelli che s'aggiravano come lo spettro s'aggirò per l'Europa, si fermarono in silenzio e poi incominciarono a fare il conto all'incontrario come la notte di Capodanno e dissero meno 5, 4, 3, 2, 1, con un po' d'emozione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione.
Vous venez d'entendre l'auteur, acteur, réalisateur et chanteur Ascanio Celestini annoncer la révolution, une chanson qui peut faire du bien par les temps qui courent. Vous êtes bien sûr FPP 106.3 et vous écoutez comme tous les premiers lundis du mois Envie d'Italie, une émission aujourd'hui consacrée au théâtre récit italien. Je donne à présent la parole à Federica Martucci, traductrice, et à notre invité, l'auteur, acteur Saverio Lavigne, qui nous vient de Calabre.
Merci Olivier. Bonjour Saverio.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Saverio, c'est pas facile de te présenter parce que tu as tellement de cordes à ton arc, mais pour aller rapidement, tu es auteur, acteur, metteur en scène. Tu es né, tu vis en Calabre, où tu as fondé une compagnie avec Dario De Luca, la compagnie Scena Verticale, qui est née en 92. Et tu es aussi le directeur artistique d'un très beau festival, Primavera dei Teatri, qui existe depuis 99, en fait, cette année, sa 15e édition. Un festival qui a un gros rayonnement, on en parlera tout à l'heure. Tu as remporté de nombreux prix qui sont importants dans ton pays, en Italie, le prix Ubu, le prix Istrio, pour ton écriture, mais aussi en tant qu'acteur, et puis pour ta compagnie aussi, pour le travail dramaturgique de ta compagnie. Tu es actuellement en France, parce qu'il y a beaucoup d'actualités autour de ton travail, et on en est très heureuse, nous, du comité italien de la Maison Antoine Vitesse, moi en tant que traductrice avec Amandine Mélan de tes textes. Tu es un personnage, un protagoniste vraiment important de la scène contemporaine italienne aujourd'hui. Tu fais partie de cette génération, on a parlé de Ascanio Celestini, de Marco Baliani, mais tu fais partie de cette génération qui, depuis les années 90, témoigne vraiment d'une volonté de défier les conditions difficiles de création, hein, de théâtre en Italie, et qui, je trouve, par ses talents, arrive à renouveler vraiment le langage scénique dans ce pays. Tu es très aussi ancré dans ta région, la Calabre, ça c'est quelque chose de très important, nous le verrons dans ton écriture, et tu d'ailleurs, tu vis toujours dans cette terre, cette très belle terre, et en particulier à Castrovillari. Et je voulais qu'on commence par parler d'un texte qui est un texte important dans ton parcours, qui est Déshonoré, un crime d'honneur en Calabre, Dissonorata. C'est un texte que tu as écrit en 2007, qui a remporté justement le prix Ubu, hein, du Nouveau Théâtre Italien, et puis aussi en tant qu'acteur, car c'est un texte que tu as un peu dans la veine donc, du théâtre récit dont nous avons parlé avec Marco Baliani. Tu en es l'auteur, tu en es l'acteur et le metteur en scène. Mmh. Ce texte a été, on l'a traduit récemment, donc avant avec moi-même et Amandine Mélan. C'est un texte qui a eu un très bel accueil ici en France, puisqu'il a été programmé, mis en lecture par Baptiste Guiton au TNP à Villeurbanne le 19 mai dernier. À lecture à laquelle tu as assisté, nous allons en parler. Il va aussi être mis en lecture au festival Traduire Transmettre. Il a été mis en lecture le 25 mai par Gloria Paris. Il va y avoir une radiodiffusion en direct et en public dans un studio de Radio France le 22 juin prochain à 21h. Un très beau texte qui parle des crimes d'honneur. Alors, Tout d'abord, quelques mots sur cette histoire, qui est l'histoire de Pascaline, une femme de Calabre, qui est la petite dernière d'une famille de 4 enfants. Elle a un frère, elle a 3 sœurs, elle est la petite dernière, et c'est normalement, selon la tradition, la dernière à ce qui doit se marier. Le problème, c'est qu'elle a des sœurs aînées qui n'arrivent pas à elle à trouver un mari. Et c'est un gros problème dans cette région à ce moment-là. Et elle tombe amoureuse d'un jeune homme. Et voilà, il va lui arriver des choses. Et sa famille va décider de venger son honneur de manière assez dramatique. Et donc, tu interprètes ce texte en Italie, tu l'as écrit, tu l'interprètes. Mais d'abord, je voudrais avoir ta réaction sur les lectures qui s'est passée au TNP. Comment tu as trouvé, qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre Pascaline en parler en français pour la première fois, puisque c'était la première fois qu'elle était mise en lecture, parce qu'elle a été traduite il y a quelques mois. Volevo sapere cosa hai avuto come impressione alla lettura, quando hai sentito la lettura al TNP di Villeurbanne lunedì.
Ma... No, una bella impressione. Perché questa. Infatti, mi chiedevo, a un certo punto vedevo delle espressioni di questa attrice che erano anche simili a quelle che io faccio.
Le espressioni di questa attrice sono in effetti semblables a quelle che je fais moi en Italie.
E quindi a un certo punto la mia riflessione è stata forse già nella scrittura,
je me suis dit c'est peut-être dans l'écriture, dans les paroles justement,
in azione il corpo,
qui les mots mettent en action le
les
mots.
Hanno spinto lei a insomma ad avere una fisicità in qualche
les
modo
mots
anche
ont,
delle espressioni,
in certaine manière poussé à avoir un caractère physique dans les expressions,
come anche un certo candore, no, una certa innocenza,
une certaine candeur, une certaine innocence,
che lei questa attrice ha preso molto bene,
che cette actrice a effectivement très très bien saisi.
Sì, sì.
Donc, elle est piaciuta.
Si, mi è piaciuto.
Ça m'a plu, oui, beaucoup.
En parlant de ton écriture, qui justement, tu dis qu'elle est très marquée par le corps, hein, puisque tu écris vraiment avec ton corps. Et on est là, dans la veine aussi du théâtre de narration, puisque c'est un corps parlant, hein, c'est une écriture qui est très corporelle. Dispositifs sont très simples en général. Toi, quand tu le joues, tu as vraiment. Tu es assis sur une chaise, il y a des lumières, un peu de musique, mais il n'y a pas de décor, donc c'est un dispositif très dépouillé. Moi, je voulais te demander par rapport à ce texte, puisque c'est le premier que tu as écrit, qui est un monologue d'une femme, hein, qui parle vraiment de quelque chose qui touche beaucoup les femmes. Alors, en Calabre, mais moi, je trouve qu'il y a aussi, bien sûr, une grande universalité dans ce texte, parce que c'est une histoire, c'est une petite histoire qui fait écho à d'autres histoires dans le monde entier, ces histoires de crimes d'honneur, malheureusement. Et moi, je voulais savoir, quand tu as écrit le texte, tu savais que tu allais l'incarner, toi, acteur, donc homme, et je voulais savoir comment est-ce que ta démarche d'écriture a été conditionnée par ça, en fait. Et en plus, après, nous parlerons du fait que bon, c'était écrit en calabrais, mais d'abord déjà en tant qu'homme acteur pour incarner un personnage féminin.
Sì, sì, dall'inizio, proprio mentre anche all'inizio
oui,
la scrittura
début, même au début donc de l'écriture de Déshonoré,
io sapevo di essere l'interprete di questa donna,
de cette femme.
E poi il fatto che questo, diciamo, che una scrittura che
puis le
è
fait
stata,
che ça s'agisse d'une écriture
che dove le donne mi chiedono sempre, ma come hai fatto a
le femmes demandent toujours comment
l'intimità proprio femminile in un modo così
comment est-ce que tu as fait pour aller de manière aussi précise dans l'intimité féminine?
Ecco, questa risposta la lascio à la psicanalisi.
Cette réponse, je la laisse à la psicanalisi.
Però ecco quello che è infatti una cosa molto
anche
mi colpì quando ci fu la
ça m'a frappé en fait quand il y a eu la mise en espace
de Mono Arrange-toi al Teatro della Ville con
Valérie Dreville.
Mm-hmm. Avec Valérie Dreville. Alla fine, perché sono arrivato in ritardo.
Non ci siamo
incontrati prima.
Non ci siamo pas croisés avant.
Alla fine della lettura,
alla
sono andato
lettura,
a Valérie,
je suis allé la voir,
facendo i complimenti. E lei mi ha detto, ma lei chi è? Io ho fatto, sono l'autore della...
E lei mi ha detto, tu es l'auteur.
Ma io pensavo l'avesse scritto una donna.
Moi, je pensais que c'était une femme qui l'avait écrit.
Ecco. Mm. Però ecco, la cosa che per me era... sentivo che dovesse accadere...
Je sentais qu'il devait se passer.
Cioè che per una volta... diciamo, non fosse la donna a raccontarsi e a rivendicare in qualche modo le sue ragioni,
no? Aveva a se raccontare e a rivendicare in una certa maniera ses propres
ragioni. Ma mi piaceva a questo punto, io come attore, come maschio, e quindi carnefice, perché l'uomo in questa storia è carnefice.
Ça me plaisait en fait d'être en tant qu'homme, en tant qu'acteur et en tant que finalement bourreau, parce que finalement dans cette histoire l'homme est un bourreau.
Mi piaceva che per una volta il carnefice, quindi l'uomo in quanto carnefice nella storia, che un uomo desse
en fait,
voce ad una donna,
che en fait l'homme qui donc est bourreau dans cette histoire puisse en tant que femme,
a una donna che tra l'altro è vittima dell'uomo.
Voilà, qui puisse prendre la place d'une femme qui est entre autres choses la victime de l'homme.
Quindi in un certo senso è un'autodenuncia, insomma.
D'une certaine manière, c'est une façon de se dénoncer soi-même.
Sono sulla sedia dell'imputato.
Je suis sur le siège de l'accusé.
Mi ci sono posto da solo.
Mais je me suis mis tout seul.
E questa cosa, poi spesso le donne, molto spesso mi dicono che è stato importante che io facessi questo ruolo.
Me disent que c'est important que ce soit moi qui l'ai fait ce rôle. Parce que ça raconte plus
le dynamiche uomo-donna
e le dynamiques entre les hommes et les femmes.
Ed è un segnale anche rispetto all'uomo.
Aussi par rapport aux hommes qui font finalement le parcours à l'envers.
Nous parlerons tout à l'heure d'Arrange-toi, qui est un autre texte où justement il y a cette dynamique homme-femme. Mais moi je trouve que dans ton écriture il y a une universalité qui dépasse le genre, vraiment qui est transgenre. D'ailleurs, tu parlais des lectures qui ont été faites par Valérie Dréville, qui a fait la lecture d'Arrange-toi. Mais par exemple, elle avait lu un autre de tes textes, Italbanais, qui est cette fois un monologue d'un homme. Et la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun souci. C'était elle, Valérie Dréville, qui l'interprétait et ça fonctionnait très bien. Donc je trouve qu'il y a une universalité dans ton écriture qui dépasse la Calabre, qui dépasse la région, qui dépasse l'Italie et qui dépasse le sexe, le genre. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est très fort dans ton écriture. Tu arrives vraiment à toucher et c'est ça que, je pense, plaît au public ou aux personnes qui lisent ou t'entendent. Je voulais qu'on parle d'un autre aspect du dialecte, justement, parce que tu as écrit Déshonoré et Arrange-toi, tu les as écrits en dialecte, tu les interprètes en dialecte et calabrais. Ce qui est très particulier, c'est que tu fais des tournées, tu l'as joué des centaines et des centaines de fois, ces spectacles, du nord au sud, d'est en ouest. Tu l'as même joué en calabrais, mais à l'étranger. Et je suis toujours fascinée quand tu dis que tout le monde te comprend. Au bout de quelques minutes passées, les premières minutes de surprise, les gens sont embarqués et puis sont très touchés et ça fonctionne très bien. Je voulais que tu nous dises deux mots de ça, justement, avant de...
Cioè, i primi tempi era preoccupante, no? Innanzitutto pensavo che questo spettacolo non avrebbe varcato i confini della Calabria.
Je pensais que ce spectacle au début ne franchirait jamais les frontières de la Calabria.
In realtà li ha varcati tantissimo, è stato soprattutto al nord.
Les a franchis vraiment parce qu'il est allé surtout dans le nord, en fait.
Ma per dire, c'è un... come dire, bisogna che il pubblico abbia fiducia.
Il faut que le public ait confiance, en fait, dans le fait qu'il peut comprendre ce spectacle.
Per dire, un evento che è successo, per dire qual è la difficoltà, mi ricordo appunto un événement,
un petit exemple que je peux prendre pour vous démontrer la difficulté qu'on peut avoir à Bari, par exemple.
Una ragazza, insomma, una giovane donna.
A Bari, donc une jeune femme.
È arrivata in questa, si faceva una chiesa sconsacrata, lo spettacolo.
Une église qui avait été déconsacrée.
De la Vallisa à Bari. E lei arriva con un entusiasmo incredibile, non c'era nessuno, arriva molto tempo prima dello spettacolo.
Un entusiasmo incroyable, elle arrive bien avant le spectacle.
Vede che non c'è nessuno, felice, dice, oh cavolo, posso scegliermi il posto che voglio.
Elle se dit, c'est super, je vais pouvoir choisir l'endroit que je veux, la place que je veux.
Va, quindi sceglie la prima fila,
si mette
in mezzo alla prima fila, quindi la posizione migliore in assoluto.
Elle se met au premier rang, au milieu, la meilleure place dans l'absolu, heureuse.
Perché probabilmente hanno detto, vai, devi andare a vedere questo spettacolo. Perché
probabilmente quelqu'un lui avait dit, vas-y, il faut absolument que tu vois ce spectacle.
Quindi è felicissima. Io la vedo dietro le quinte, ho detto, vediamo cosa succede.
Moi, je la vois derrière les coulisses et je me dis, oula, on va voir ce qui va se passer.
al che vado, comincio la prima frase in calabrese.
J'y vais, je commence la première phrase en calabrese.
E vedo da lei che era tutta protesa verso di me, che a un certo punto.
Et je la vois complètement
tendue vers
moi. A un certo
punto va indietro col busto per dire, e mi fa una faccia perplessa.
Et d'un coup, elle se retire comme ça avec le busto et elle me fait une espèce
Dio
de
mio,
grimace perplexe. Elle me dit. Elle se dit, mon Dieu, mais comment je vais faire?
E poi si guarda, a un certo punto si guarda intorno a destra e a sinistra
per
capire
a gauche, a droite,
qual
pour
è comprendre, la via di fuga.
Pour savoir comment elle allait pouvoir s'échapper de là.
Però si era intrappolata da sola perché era in mezzo.
C'était, bien sûr, évidemment, prise au piège toute seule parce qu'évidemment, comme elle était au milieu, au premier rang, elle ne pouvait absolument pas sortir.
Anche io l'ho visto, ho detto, ok, lei ha ragione, io sono a casa sua. Et non parlo la sua lingua.
Je non, me suis dit, en fait, elle a raison, je suis chez elle et en même temps, je ne parle pas sa langue.
È un problema di cui devo farmi carico.
Et c'est un problème dont je dois prendre en charge moi.
Alors, la guardavo tutto il tempo.
Alors, je la regardais pendant tout le spectacle.
Mi rivolgevo verso di lei, probabilmente questo fa scattare anche delle piccole cose.
Et sans doute, évidemment, le fait de s'adresser directement à quelqu'un fait évidemment se déclencher des petits mouvements.
Dopo 20 minuti, il suo busto da che era verso dietro.
Après 20 minutes, son corps qui s'était mis complètement derrière s'est remis un peu en avant. Elle s'est redressée.
Dopo 30 minuti,
après 30
il
minutes,
si protende verso di me.
Elle était tendue vers moi.
Dopo 35 minuti, après faceva 35... con la testa. Sì.
Et après 35 minutes, elle faisait avec la tête oui.
Che per me era quasi imbarazzante.
Pour moi, c'était presque embarrassant parce que c'était devenu presque un dialogue à deux.
Ouais. Cette anecdote, je trouve, montre très bien qu'il y a quelque chose dans ton écriture, parce que c'est une écriture qui part du corps, et que tu le fasses en dialecte devant des gens qui n'en comprennent pas le dialecte calabrais, ou que nous, après, on le traduise en français et que ce soit pris en charge par des acteurs français, même si les personnages sont des personnages de la Calabre, ça fonctionne aussi très bien, ça parvient, parce qu'il y a quelque chose justement d'universel dans cette écriture qui, je pense, le fait que tu fais vraiment un travail en partant du dialecte, mais en allant chercher dans les racines les plus profondes et finalement à ce qui est le dénominateur commun, qui est l'humain, quelles que soient nos origines, d'où nous conviennent, il y a quelque ce dénominateur commun que tu arrives à faire ressortir. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais si tu pouvais, je ne sais pas, nous faire entendre justement ce calabrais, en nous donnant un petit passage de Déshonoré, hein, un crime d'honneur en calabre, en calabrais.
Ho capito bene.
Sì.
Di fare un passaggio in calabrese, ovvio. Però non avremo i 30 minuti, i 25 minuti che servono appunto al busto di fare tutta la sua evoluzione.
Malheureusement, j'aurai pas les 25-30 minutes qui servent au buste pour faire toute son évolution vers moi, mais bon, on va essayer quand même.
Però, insomma, mais buona fortuna a
tutti.
Buona fortuna a tutti.
È il momento in cui lei si presenta anche al pubblico e in cui diciamo, dice come si deve comportare una donna appunto al sud di quei tempi, ma non è di tanto tempo fa, passando in mezzo agli uomini, insomma.
Comment devait se comporter donc une femme il n'y a pas si longtemps quand elle passait au milieu des hommes.
Fa più o meno così. Sungo una guagnona e quando passo mienzi gente, agliete una capa vasciata, fa che conti petre penderra. Se mi parla d'anguno, non zuoccolo un capo e via per i fatti suoi. Tiri il zuoccolo per difesa e poi una tota a capa vasciata a contai petre pender. Se viene d'anguno e mi dice, oh, amata la parta, io piglio subito a petrate, chi gli è sta confidenza? Un dauretta a nessuno e un gauzo mai lo a chiander, che senza a mai si scontrano con qui di un mascolo, tutto il paese mi chiama puttana. Sa vicina già sposata, una vecchia, chi che sia, mi vede sulla pavia nova, senza mamma mia, o da suora me più grande, senza piecore, senza non fasci fia, non cestifiche, proprio per queste mi chiamano puttana. Solo una volta che mi ha già sposata, posso guardare un mondo in andamia mia, posso trasendare la putia, cattare un zucchero e un sale, e posso portare a fede quei ricchini. Quando è una guagnona, dopo che ha fatto 18 anni, non si è ancora maritata, allora poi sa, comincia a sfuttare. A zitellona, avi, a zitellona, ma non mi posso sposare se non arrivo al turno mio. A prima aspetta la figlia più grande e poi all'altra, in ordine di età. E tieni figli in una casa di papà mio, tre, e siamo tutti pronti a sposare. Padre, ma non è contento di mamma mia perché ha fatto nascere troppe figli in una casa. che nessuno voleva il figlio materno, solo mascolo volevano. Quando nasceva un figlio mascolo era nato un re, principe della casa, e mettevano la corona e sparavano in giro quei fucili. Tanto che gli era dopo, se nasceva una femmina no, se nasceva una femmina era un lutto. Una femmina era una disgrazia. Ah, così, pensavano. Se nasceva una femmina era una preoccupazione, solo un putiaghi assolutamente. Ci voleva sempre un carabiniere, zia. O si imparava o no, ma solo non ci poteva dire perché poteva fermare una via via. Oppure mente era didda che poteva guardare anguno a via via. E questa era la femmina tanno.
Grazie.
È stata una bella battaglia per gli ascoltatori, per voi anche. No?
un beau combat en fait, pour les spectateurs et aussi pour vous, j'imagine.
Bah, en tout cas, les spectateurs pourront l'entendre le 22 juin, la version française, pour savoir exactement. Mais en tout cas, c'est ce très beau passage où Pascaline effectivement raconte qu'elle doit marcher. Son destin, c'est de marcher en regardant les pierres, parce que sinon, si elle croise le regard des hommes, elle se fait traiter de putain. Et ce regard des hommes, c'est quelque chose qui revient dans un autre texte dont nous parlerons tout à l'heure, Arrange-toi, qui est un très beau texte. Savelle, alors, on parlera tout à l'heure d'Arrange-toi, qui est un autre texte que tu as écrit en dialecte calabrais et qui parle aussi de ce regard des hommes. Mais je voudrais qu'on fasse qu'on parle aussi d'un autre monologue que tu as écrit, qui s'appelle Italianesi, Italbanais, que j'ai traduit avec Amandine Mélan aussi, et qui va être dans l'anthologie qui est parue chez aux éditions Lamandier. Donc ce Italbanais, vous pourrez le lire dans cette anthologie. C'est un texte, cette fois, que tu as écrit en italien. Tu me dis qu'au départ, tu avais commencé à l'écrire en dialecte et puis spontanément, tu es passé à l'italien. Ce que je comprends, on peut comprendre tout à fait quand on sait la thématique dont il est question, qui est, tu vas peut-être pouvoir le résumer rapidement, mais qui est une thématique qui, justement, parle de la patrie, parle du père. Et donc, peut-être que là, il faut aller chercher aussi, quand on parle de la patrie, vers l'Italie, et non plus à se contenter de la région, mais aller un peu plus loin et élargir la focale sur l'Italie tout entière. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, pourquoi ce texte, comment il est venu, texte que tu interprètes aussi, qui tourne beaucoup, qui a eu un gros succès en Italie, et qui, je trouve, résonne beaucoup avec l'actualité, notamment italienne, mais aussi française, concernant tous ces débats qu'on a en ce moment sur la nationalité, sur l'immigration.
Perché poi mi piace parlare della cosa che mi appassiona, comunque mi colpisce profondamente.
J'aime parler des choses qui me passionnent, qui me frappent, en fait, de manière très personnelle.
Cioè, la cosa che mi colpiva molto,
la cosa che mi frappait beaucoup
in questo questa situazione, che poi
era anche
sconosciuta anche abbastanza in Italia,
inconnue aussi en Italie,
era appunto il fatto che questi italiani, o comunque figli italiani, che sono rimasti,
ces italiens sont restés piégés en fait en Albanie
dopo alla fine della seconda guerra mondiale,
fin de la seconde guerre mondiale,
con l'avvento del comunismo,
avec l'arrivée du communisme et du régime,
non hanno permesso più che nessuno lasciasse
l'Albania. Ils n'ont plus permis que personne ne quitte l'Albanie.
Alcuni sono rimasti nella società civile,
quelques-uns sont restés dans la société civile et certains d'autres carrément dans des camps,
in campi di concentramento, in campi di prigionia,
dans des camps de concentration, des camps de prisonniers.
La cosa incredibile è che questa gente che c'è entrata, che si è trovata lì,
la cosa incredibile è che le gens qui sont retrouvés là,
e infatti diciamo il protagonista si ritrova,
personaggio principale si ritrova
nel 51, cioè nato nel 1951 all'interno di un campo di prigionia,
se trouve dans un camp de prisonniers.
Per me la cosa terribile è stata quella che ne è uscito nel 1991
e il en est sorti 40 ans après en 1991.
Ha vissuto in cattività tutta
terrible.
La sua vita,
il avait vécu en captivité toute sa vie.
E mi chiedevo, ma una persona che è stata e nata in cattività,
come una persona che è
nata
in cattività,
in prigionia, scopre la libertà, che sapore ha, cos'è?
Quelqu'un qui est né en captivité, qui a vécu toute sa vie comme un prisonnier, que quand il découvre la liberté, qu'est-ce qui se passe pour lui?
Et puis l'autre chose, anche molto forte, è il fatto che queste persone hanno vissuto col
mito dell'Italia. Toutes ces personnes ont vécu avec le
perché
mythe de l'Italie.
Erano anche discriminati in quanto italiani.
Parce que là, ils étaient en fait discriminés en tant qu'italiens.
Et quindi
et donc,
hanno vissuto ils ont vécu pensando
en pensant
che un
toujours
giorno,
qu'un jour
sarebbe arrivati in Italia, questo Eldorado, questo paradiso.
Ils allaient retourner en Italie, qui avait cet Eldorado,
che li avrebbe in qualche modo avrebbe riscattato il loro dolore
quando qu'ils allaient comme ça en fait pouvoir racheter leur douleur.
Quindi arrivano in Italia con delle aspettative incredibili.
Ils arrivent en Italie avec des attentes terribles en 91.
Anche con un'operazione ufficiale che ha fatto il governo italiano
per farli ritornare. Même avec une opération officielle qu'a fait le gouvernement italien pour les faire revenir.
Nel 91 arrivano in Italia con pieni di speranza,
plein d'espoir,
infinito e si ritrovano ad essere trattati da albanesi,
traités finalement comme des albanais,
perché non conoscevano la lingua italiana, che era proibito parlarla lì.
Ils connaissaient pas la langue italienne parce qu'il était interdit de la parler là-bas.
Erano nati lì perché erano anche dei bambini,
en Albanie,
sono nati appunto in Albania.
Même eu des enfants en Albanie.
Spesso da mamme appunto albanesi, da papà italiani.
Souvent avec un papa italien et une maman albanaise.
Anche situazioni però invece diciamo
mamma. Il y a aussi des fois la situation inverse.
E quindi la cosa drammatica è che dopo essere stati prigionieri,
vessati,
discriminati,
imprigionati
per 40 anni,
pendant 40 ans,
perché erano italiani,
parce qu'ils étaient italiens en Albanie,
poi arrivano in Italia,
ils arrivent ensuite en Italie,
e fanno il resto della loro vita da albanese. Quindi il discorso
ils font la suite de leur vie comme des Albanais.
Dateci una piccola isola tra l'Italia e l'Albania,
ma che moment, sia il nostro. Donnez-nous
dateci une patria.
Donnez-nous une patrie, donnez-nous une petite île entre l'Albanie et l'Italie dans laquelle on pourrait se sentir chez nous.
Un très beau texte, une très belle interprétation pour laquelle tu as remporté le Prix Ubu d'ailleurs il y a deux ans. Moi, je suis aussi frappée du fait que tu prends souvent, tu ancres ton écriture et les choix de tes thèmes dans une réalité anthropologique qui est celle de tes racines. Mais après, tu arrives à t'en affranchir et à créer une langue qui t'est vraiment très, je trouve, particulière, qui était vraiment propre. Et il y a aussi, dans ta part, je trouve toujours un engagement dans tes choix de tes thématiques. Tu viens de parler la situation de ces Italo-Albanais, comme tu les as désignés. On a parlé de Déshonoré. J'aimerais qu'on parle maintenant d'un autre texte qui est très beau, qui est le premier qui a été traduit, que j'ai traduit avec Amandine Mélan, qui s'appelle en italien L'aborto, arrange-toi, et qui est l'histoire de Vittoria Scholl, une femme simple, dévote, qui vit en Calabre et qui est mariée très jeune par ses parents. À 28 ans, elle a déjà 7 enfants et à la 8e grossesse, n'en pouvant plus, elle décide de se rendre chez la faiseuse d'anges pour un avortement clandestin, puisqu'à l'époque, l'avortement n'est pas encore légalisé. Le texte est très bien construit. Il y a toujours de l'humour, de l'ironie un peu amère, mais beaucoup de ressorts comiques dans ton écriture. Et elle fait vivre, c'est un monologue, mais à travers sa voix, elle fait vivre vraiment la communauté de ces femmes et de ces hommes de ce village. Elle raconte les réactions, les relations avec les hommes, le calvaire des allées-venues chez la faiseuse d'ange. Et puis, tout ça, et les arrangements qu'il faut faire. Il y a des parties très, très drôles où on voit comment les femmes essayent de s'occuper la nuit pour ne pas avoir à faire l'amour avec leur mari et donc pas retomber enceinte. Donc, qui fait le trousseau, qui prie. Enfin, elles s'inventent des mille facéties pour essayer de ne pas tomber enceinte. Et puis jusqu'à la fin du récit où là, Vittoria, cette fois a vieilli, elle accompagne sa petite fille de 15 ans à Milan pour avorter. C'est un avortement cette fois légal puisque la loi est passée entre temps. Mais à travers son récit, on comprend que la mentalité, le regard des gens, les préjugés n'ont pas changé aujourd'hui et que finalement, le même regard qu'elle a eu, elle, des années auparavant, elle le sent sur sa petite fille. Et on s'aperçoit que finalement, même si la loi passe, loi qui, comme disait Simone de Beauvoir, il faut toujours être vigilant parce qu'il suffit une révolution, il ne suffit pas grand-chose pour que les droits acquis passent. Mais là, on s'aperçoit finalement, c'est aussi les préjugés, les mentalités qui font que les choses ne bougent pas. Ce texte qui est très, très beau va être mis en scène par Antonella Amiran. Nantes. J'ai le plaisir extrême de jouer le rôle de Victoria. Et à mes côtés, il y aura Soleá Garcia Fons, qui très belle voix, qui va pouvoir accompagner le texte de sa de chant populaire du sud de l'Europe. Et c'est une coproduction. Le spectacle sera coproduit par le Théâtre de Vienne et par le TNP de Villeurbanne. Il sera créé du 14 octobre au 25 octobre prochain au TNP de Villeurbanne. Et c'est un très beau texte. Je voudrais que tu nous parles justement du choix de cette thématique, parce que ce n'est pas un texte pour moi seulement sur l'avortement. Évidemment, on parle beaucoup de l'avortement, mais c'est surtout un texte qui parle du regard des hommes sur les femmes et aussi du comportement parfois un peu prédateur que les hommes imposent aux femmes, qui créent des situations, par exemple tomber enceinte, et dont ils n'assument pas vraiment les responsabilités. Donc ils causent des situations dont ils n'endossent pas les responsabilités. Et je trouve que ça, c'est une thématique, alors pour le coup, que l'on retrouve vraiment partout et qui, elle aussi, est très, très actuelle. Je voudrais que tu nous parles de ce regard-là, parce que toi, en tant qu'homme, comment tu le vois, tu le sens?
Ma io quando ho scritto questo testo,
quand j'ai écrit ce texte,
era un momento in cui in Italia era esploso il problema intorno alla 194, cioè la legge che regolamenta l'aborto in Italia.
En 1994, la loi qui régulait l'avortement in Italia.
Cioè il grande disagio che provavo era il fatto che erano soprattutto gli uomini, no, che dicevano
les
cosa
hommes,
bisognava
en fait,
fare della 194, perché l'aborto sì, perché l'aborto no, no?
Infatti, c'est surtout les hommes en fait qui en 1994 disaient ben voilà l'avortement on doit le faire dans telle ou telle condition.
Infatti c'è stato anche Giuliano Ferrara, no, che faceva tutta quanto no quella
Giuliano Ferrara
che si presentò con la moratoria contro l'aborto, cioè anche lui appunto
le moratoire contre l'avortement.
E allora a questo punto anche qui ho deciso, bene, a questo punto come uomo invece di parlare cosa la donna deve fare, assume invece il punto di vista femminile intorno a questo argomento.
E donc oui, je voulais prendre justement donc l'identité féminine pour justement traiter de cet argument en tant qu'homme.
E quindi parlare di una storia in cui una donna prima che ci fosse questa legge, qual
era? Parlare di una storia en fait où la femme avant qu'il y ait cette loi.
Il dramma proprio delle donne,
soprattutto delle donne.
Delle fasce sociali povere, insomma.
Surtout des femmes des couches sociales les plus pauvres.
Infatti ho fatto anche una ricerca.
Donc j'ai fait une recherche.
Ho letto tantissimo. Ho trouvé con più facilità quello che succedeva nell'oggi. E la difficoltà era trovare delle persone che raccontassero di prima.
J'ai trouvé avec plus de facilité finalement ce qui se passait aujourd'hui, mais ce qui était plus difficile c'était de retrouver des traces de ce qui s'était passé avant.
Però mia madre conosceva una di queste donne.
La mère connaissait une de ces femmes.
E niente, ha fatto, non so, ti faccio conoscere questa persona che so che all'epoca.
Je te présente cette personne dont je sais qu'à l'époque
aveva praticato e anche insomma praticato per altre persone.
Et aussi pratiqué pour d'autres personnes.
E niente, quindi siamo andati a questa persona che vive nella parte vecchia del mio paese.
Et donc on est allé voir cette personne qui vivait dans la partie la plus ancienne de mon village.
E questa sì, io mia madre le ha parlato, io
ma mère lui a parlé.
Le ho chiesto se
moi
poteva raccontarmi
si elle pouvait raconter quelque chose.
Et elle m'a dit, savez, ti voglio aiutare.
Et elle m'a dit, savez, je veux t'aider.
Però ne parliamo la settimana prossima.
Mais on en parle la semaine prochaine.
Mi chiama la settimana prossima.
Appelle-moi la semaine prochaine.
E io ogni settimana la chiamavo, signora Maria, sono Saverio, il figlio della signora Filomena, vi venga a trovare.
Alors, sur toutes les semaines, je l'appelais, je suis Saverio, est-ce que je peux venir vous voir?
Non, figlici.
Non.
Ah, ma prova la settimana prossima, come mi sento buona.
Non, c'è mieux que tu rappelles la semaine prochaine.
Je me sens pas bien.
E io, la settimana successiva, signora Maria, a un certo punto è diventato un rituale che ha accompagnato la scrittura.
Donc moi je rappelais la semaine suivante et à un certain moment c'est devenu une sorte de rituel qui accompagnait l'écriture.
Ho finito di scrivere il testo.
J'ai fini d'écrire le texte.
E lei, qualche giorno prima ancora, figlici, un ma sento ancora mo. Mi parla la settimana prossima.
Et elle toujours, on se parle la semaine prochaine.
per dire perché era clandestino, perché
parce c'era c'était clandestin,
parce anche una paura, un timore proprio di
c'était
parlare
peur,
di queste
une,
cose.
Une crainte de parler de ces choses-là.
Donc tu as eu du mal à récolter finalement des témoignages des femmes de l'époque.
Sì, infatti ho letto tantissimo quelle che erano
chose.
Una serie anche di inchieste che stanno, erano state fatte anche soprattutto da femministe.
Des enquêtes qui avaient été faites surtout par des féministes.
E infatti sono stato 10 giorni nella Casa Internazionale della Donna a Roma.
Je suis allé donc à la Maison Internationale des Femmes à Rome une dizaine de jours.
E le donne poi avevano aderito molto al progetto, per cui mi trovavano libri, scopavano articoli.
Les femmes ont beaucoup, enfin, ont adhéré à ce projet. Donc après, j'ai trouvé des livres, des articles, etc.
Poi ho letto tantissimo in quei 10 giorni, ma soprattutto mi sono portato una pila di fotocopie così alta.
Et je me suis retrouvé avec une pile énorme de photocopies.
Mm. Sì. Tu as écrit ce texte en 2009. On est en 2014. On va le jouer là en octobre. Nous, en TNP, il y aura une tournée en France, et je trouve qu'il voilà, il est encore plus d'actualité, je dirais, en tout cas de notre côté des Alpes. On voit ce qui s'est passé en Espagne. Tu disais que ce qui t'avait, toi, stimulé dans l'écriture, c'est que tu avais vu au moment du débat sur la loi en Italie que c'était que des hommes qui prenaient la parole. On se souvient de cette photo, là, en Espagne, quand l'Espagne est revenue en arrière sur la loi sur l'avortement, cette photo de... Il n'y avait que des hommes politiques qui avaient voté cette loi, c'était que des hommes, il n'y avait pas de femmes là, on se demandait où étaient les femmes. Donc c'est quelque chose qui, je sais, en France en ce moment, on en parle beaucoup parce que certes, le droit est inscrit dans notre loi, mais on s'aperçoit que c'est un vrai parcours de la combattante pour avorter en France. En pratique, c'est assez difficile et notamment, il y a cette question que tu abordes dans le texte d'ailleurs, qui est celle de la clause de réserve de certains médecins. En Italie, il y a quasiment 80% des médecins qui refusent de pratiquer ces actes parce que ils font jouer leur clause de conscience pour des raisons éthiques, des raisons religieuses, mais on s'aperçoit finalement que c'est surtout des raisons économiques derrière, ça c'est pas très intéressant comme acte à pratiquer, et on se rend compte qu'en France on a vraiment on est confronté à ce problème aujourd'hui parce que toute la génération qui a combattu pour la loi pour l'avortement est en train de partir à la retraite et que la jeune génération de médecins n'est pas intéressée, ne prend pas la relève, et là on se vraiment un gros souci. Je pense que les prochains mois en France vont être sujet de débats et de discussions importants pour essayer de résoudre la question. Mais tout ça pour dire aussi que aussi bien dans ta texte Déshonoré que dans Arrange-toi, tu parles beaucoup des médecins. C'est quelque chose qui revient. Tu parles vraiment du rôle aussi des hommes et des rôles des hommes médecins. Giusto in qualche modo parli molto dei medici sia in Desonorata sia in Arrange-toi, c'è questo ruolo anche questa responsabilità del corpo del medico
ma anche il medico come maschio
mais aussi le médecin en tant qu'homme
sta spesso da un'altra parte rispetto a
il est souvent d'une autre côté
al problema della donna
au problème des femmes
che appunto io ritengo
pense, considère que.
Infatti, nello spettacolo in Italia, il
spettacolo en Italie, que le musicien qui est un homme.
Sta dando diciamo, ha una posizione di spalle al pubblico, ma di spalle anche a Vittoria.
Donc, se met en fait dos au public et donc dos aussi à Vittoria.
Non, vuol dire che sta dando un spettacolo. Cioè, diciamo, l'uomo non riesce a stare accanto alla donna.
L'homme ne reste pas, non riesce pas a rester à côté de la femme.
Io ritengo che comunque, diciamo, siccome è nel. Intanto il suo corpo,
e lo corps, vive,
il suo corpo, penso che debba essere accanto prima di dire cosa. E invece di essere accanto, spesso l'uomo fugge via quando la donna vive questo dramma.
Oui, souvent l'homme fuyait, donc en fait l'idée c'est de mettre le corps de l'homme justement à côté de la femme dans le spectacle. Mm.
Però sì, è vero, questa cosa non ci ho mai riflettuto sul fatto dei medici presenti, sì.
Je n'ai jamais, j'avais pas pensé à cette histoire des médecins présents.
Sì, vero, vero.
Oui, surtout qu'en France, par rapport à ton texte Arrange-toi, c'est un des clous du problème, en tout cas par rapport à l'avortement. Je voudrais lire un extrait d'Arrange-toi, justement, un extrait qui parle de... On comprend mieux quel est le regard de ces hommes. C'est Vittoria, donc la protagoniste, qui raconte comment, quand elle était jeune, ce qui lui arrivait quand elle traversait le village pour aller de chez elle à chez sa grand-mère. Parce que là-bas, ça marchait comme ça. Quand les filles passaient, Il se crée une série de barrages l'un derrière l'autre. Et puis à la fin, il y avait la dogana, la douane. Premier barrage devant le bar Novecento. Deuxième barrage devant le bar Centrale. Troisième barrage à la Tavernetta. Et arrivé sur la place, tu tombais sur la dogana. Une véritable douane devant le Circolo Unione. Les douaniers principaux, c'étaient Domenico Bello, Tonio Pesalano, Vincenzo Bagnolo et Carmeno Ubruttu. Le plus laid était Carmeno Ubruttu, comme son nom l'indique. L'obbligé c'est la parola stessa, che lo chiamavano apposta così, con i capelli neri come il fumo, il baffo pure nero e grosso e la faccia unta unta. Entre le moment où il est né et celui où il est mort, on l'a jamais entendu dire une chose sensée, celui-là. Il était petit et noir, tout le contraire de Domenico, ou Bello, qui était grand et blond. Il restait assis au Circolo Unione et il jouait aux cartes. On les appelait les géomètres, parce qu'ils te mesuraient des yeux comme s'ils avaient un mètre. Au barrage, il y avait les plus petits, les apprentis, et à la douane, il y avait les plus grands, les géomètres. Et parmi les géomètres, celui qui commandait, c'était l'ingénieur, Domenico Bello, le chef de chantier. Toujours avec une cigarette à la bouche, toujours avec une chemise à la mode, mais toujours bleu ciel ou rouge. Toujours déboutonné jusqu'à la poitrine quand il faisait froid, et déboutonné jusqu'au ventre quand il faisait chaud. Selon la saison, il montait ou remontait le bouton. Domenico Bello était toujours vautré sur une chaise comme s'il était né, fatigué. Mais rien ne lui échappait. Pas même une mouche. Quand le chef de chantier tournait la tête, tous les autres suivaient le mouvement. Et leurs yeux se collaient à toi. Tu les sentais sur toi comme des mains. Et la radiographie commençait. Voilà, c'est un extrait où elle raconte que finalement elle passe une véritable radio quand elle traverse le village. Je trouve qu'on voilà, il y a aussi beaucoup d'humour de la part et d'ironie de la part de cette jeune fille qui tu vas subir les regards de ces hommes qui bon font penser à pas mal de regards qu'on peut aussi croiser aujourd'hui quand on passe devant certains bistrots même parisiens. Voilà. On nous reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même qu'on parle rapidement de ton festival, parce qu'il va avoir lieu fin mai. Il commence le 28 mai et il se termine le 3 juin. C'est un festival qui existe maintenant, c'est la 15e édition cette année. Et c'est un festival qui a vraiment un rayonnement dans toute l'Italie aujourd'hui, un festival important qui se passe à Castrovillari, donc dans ta ville, et qui a aujourd'hui un tel rayonnement que beaucoup de compagnies, de docteurs italiens vont faire maintenant la création, présentent leur création au moment du festival. Moi, j'y suis allée l'année dernière, il y a une ambiance qui est absolument sympathique, enfin qui te ressemble, c'est vraiment un plaisir. Bon, il y a beaucoup de monde, les salles sont pleines et beaucoup de journalistes. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la prochaine édition, de ton bonheur aussi, parce que je crois que c'est quelque chose qui te procure beaucoup de bonheur, ce festival?
Ma allora, il Festival Primavera dei Teatri è alla 15ª edizione, appunto,
come dicevi prima. La 15ª edizione, ce festival.
E si terrà dal 28 maggio
al 2 giugno. E quindi si tiene dal 28 maggio al 3 giugno.
Diciamo, è un festival dedicato soprattutto all'ultima generazione teatrale.
C'est un festival qui est surtout consacré alla dernière génération théâtrale.
Anche se man mano stiamo diventando tutti un po' vecchi, quindi insomma.
Même si on vieillit petit à petit, donc voilà.
Cioè, quindi insomma, c'è un misto, un equilibrio adesso tra i giovanissimi e quelli che giovani erano magari qualche anno.
Très très jeunes et puis ceux qui étaient jeunes il y a quelques années.
È un festival che ha una, diciamo, una grossa attenzione anche alla nuova drammaturgia.
Voilà, c'est un festival qui porte une grande attention à la nouvelle dramaturgie.
E ci saranno molte prime nazionali, quasi tutte.
Beaucoup de créations nationales, pratiquement toutes seront des créations.
Ed è interessante il fatto che si fa anche in una regione, che è la Calabria.
Et c'est intéressant aussi que ça se fasse dans une région qui est la Calabre.
Dove il teatro contemporaneo, la
nuova drammaturgia, contemporain, diciamo, la nouvelle dramaturgie,
sono piuttosto assenti.
Sono plutôt absentes.
C'è addirittura poco teatro in genere.
Il y a même très peu de théâtre en général.
E quindi è stata una grande scommessa, donc cioè quello di far diventare Castrovillari periferia di una regione,
voilà, changer Castrovillari periferia in periferia di una regione che è già lontana,
diciamo povera.
e che è culturalmente piuttosto povera.
La scommessa di invece di dire ok, anche la periferia diciamo più lontana e più povera, se si lavora seriamente, insomma, si può costruire un momento anche culturale che può interessare la nazione, cioè attrarre donc, il centro voilà. verso la periferia.
C'est donc l'idée d'attirer le centre vers la périphérie et de montrer que si on travaille sérieusement, on peut aussi faire quelque chose. Attirer en fait voilà faire de la création théâtrale y compris dans un lieu qui est traditionnellement plutôt écarté du théâtre et surtout du théâtre contemporain.
Et un festival qui est en train de s'ouvrir à l'Europe parce que cette année il y a des compagnies belges. Nous on espère l'année prochaine présenter là aussi Arrange-toi. Donc c'est un festival qui est en train de sortir d'Italie d'ailleurs et qui attire aussi des compagnies de l'étranger.
Dai, et appunto, stiamo preparando la strada, Belgio, poi Francia.
Oui, on est en train de préparer la route pour faire inviter donc, d'abord cette année donc, des Belges et puis peut-être par après des Français.
Alors, le festival se tiendra du 28 mai au 3 juin à Castroville. Si vous voulez écouter le texte Déshonoré, un crime d'honneur en Calabre, il sera donc diffusé sur France Culture le 22 juin à 21h. Il y a un enregistrement direct en public au studio 105 de la Maison de la Radio. Par ailleurs, je vous ai parlé de la création d'un autre texte, Arrange-toi, qui sera créé donc du 14 au 25 octobre prochain au TNP à Villeurbanne, puis une tournée en France, mise en scène par Antonella Amirante. On va se quitter sur une chanson que tu as choisie. Je voudrais que tu nous dises deux mots de ce choix, qui est une chanson de Mina Martini, qui a une magnifique voix, la regrettée Mina Martini, qui avait été calabraise comme toi, hein, et qui oui. Je pense peut aussi avoir des rapports avec des hommes, avec les hommes qui n'ont pas toujours été faciles. Et cette chanson s'appelle Les hommes, gli uomini non cambiano, les hommes ne changent pas. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette scelta di questa canzone?
Ma perché?
Parce que.
Tu che sei una donna, quanto pensi che l'uomo sia cambiato?
Toi qui es une femme, est-ce que tu penses que les hommes ont changé?
Insomma, è un percorso ancora lungo e penso che l'uomo, insomma, abbia... Cioè, come dire, il problema non è più la donna.
Il problema non è più la femme.
La donna sa.
La femme sait.
Dove sta andando, di cosa ha bisogno.
Où elle va.
Sta rivendicando.
Elle sait ce dont elle a besoin, elle rivendica.
Con lucidità da tempo.
Avec lucidité depuis longtemps.
È l'uomo che non ha fatto questo passaggio.
C'est l'homme qui n'a pas fait ce passage.
E che anzi è confuso. Cioè il problema
dans
è
la
che
confusion.
Se ci fuori dal modello maschilista dominante...
Le problème, c'est qu'en sortant du modèle masculin dominant...
E non sai, come dire, non hai un altro modello di riferimento, quindi c'è questa confusione.
Il n'a pas d'autre modèle, finalement, que ce machisme pour...
E in questa confusione spesso e non accettazione della libertà dell'altro spesso nasce appunto il dramma, quindi il crimine d'onore in Calabria, tipo in Dissonorata.
Le fait d'accepter justement la liberté de l'autre, juste on peut faire naître un drame comme ça se passe dans le crime d'honneur en Calabre.
E quindi penso che Mia Martini con Gli uomini non cambiano è molto al passo coi tempi.
Oui, je pense que justement beaucoup Mia Martini avec cette chanson a beaucoup d'actualité.
Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata, ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita, la pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano,
D'entendre Mina Martin, il y a uomini non cambiano, les âmes ne changent pas. Vous êtes bien sur FPP 106.3 et vous écoutez comme tous les premiers lundis du mois Envie d'Italie, une émission aujourd'hui consacrée au théâtre récit italien. Notre belle émission touche à sa fin. Vous pourrez réécouter l'émission de ce soir indéfiniment ainsi que toutes nos archives en vous rendant sur notre site http://envieditalie.fppradio.wordpress.com ou écouter la rediffusion jeudi matin à 8h, toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Pour terminer, un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Federica Martucci de la maison Antoine Vitesse qui a assuré l'entretien avec Saverio Lalluina et la traduction de l'entretien avec Marco Baliani. Bertrand Chaumeton à la technique sans qui rien ne serait possible. Merci à Veronica Colalti qui nous a soutenu de ses précieux conseils et que vous retrouverez à la rentrée. Merci aussi et surtout à nos invités, Marco Baliani dont je vous rappelle que vous pourrez lire en français Cordetta, l'affaire Moreau, paru aux éditions de l'Amandier, et Saverio Lalluina, publié ainsi que Marco Baliani dans la toute nouvelle et belle anthologie de théâtre contemporain italien, dirigée par Paola Ranzini, toujours aux éditions de l'Amandier. Nous rappelons que le spectacle Arrange-toi de Saverio Lalluina, mis en scène par Antonella Mirante, avec Federica Martucci et la chanteuse Soler Garcia Fons, sera créé au TNP de Villeurbanne du 14 au 25 octobre 2014. Il sera ensuite en tournée à Vienne, Vannes, Chelles, Bron et Roanne. En l'absence de Véronica, cette émission a été présentée par moi-même, Olivier Favier. Bon été à tous.